Bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Il est 20h21. Un petit larcin. Vous êtes à l'émission La Prophétie. Donc émission comme à l'accoutumée tous les vendredis de 20h à 22h. Donc avec les intervenants de qualité, Mashallah. Ahmed Mikhtar avec nous, Inch'Allah ce soir. On va parler de la sauvegarde. On va essayer de continuer la thématique que tu avais déjà abordée avec Aïssa. C'était comment se protéger. Et Inch'Allah, on va continuer sur cette thématique pour ceux qui ont pu écouter la dernière émission avec toi. C'est sur la protection.
Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. Très chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, très chers amis, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on continue inshallah ta'ala le thème que nous avons commencé concernant la protection, comment le musulman doit se protéger et s'en sortir face au dilemme, aux difficultés et aux tristesses et aux malheurs que vit au quotidien chaque individu, que ce soit de la composante musulmane de notre pays ou que ce soit tout individu de partout dans le monde. Et la dernière fois, on avait parlé de certains points importants pour la protection et la sauvegarde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer et on va s'arrêter sur une station parmi les stations de la foi qui a été cité par le prophète Al-Sallam en premier, puisqu'il est notre repère et notre enseignant, et par la suite qui a été manuscrit et noté dans les livres de purification des âmes, dans les livres de spiritualité musulmane. Et cette station, c'est la station de Al-Muraqaba. Al-Muraqaba veut dire le fait d'être conscient de la vision de Dieu subhanahu wa ta'ala et la connaissance de Dieu, de ce qui se passe autour de nous et au fond de nous-mêmes. Et le muraqaba, c'est le fait qu'on ait la certitude qu'Allah nous voit et qu'Allah est tout sachant. Il sait, il est omnipotent, omniscient, et il sait très bien ce qui se passe au fond de nous-mêmes, nos intentions et aussi nos actions. Ce que nous cachons et ce que nous divulguons, ce que nous faisons en secret et ce que nous faisons en plein jour et devant tout le monde. Et donc cette station, elle est importante puisque le musulman, grâce à elle, se protège des mauvaises intentions et des mauvaises actions. Un exemple que nous donnent les savants, imaginons que un jour on ait la visite du prophète de l'islam Mohammed alayhi salam, nous en tant que musulmans, et que le prophète alayhi salam vient nous rendre visite et passer une journée avec nous et une nuit. Alors imaginons cet heureux événement, le fait que le prophète nous rende visite. Alors premièrement, la question, c'est comment l'accueillir, comment ouvrir la porte, comment le mettre à l'aise chez nous. Deuxièmement, comment être à son service en tant que hôte, en tant que visiteur. Troisièmement, comment se comporter en ayant comme compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on va l'accueillir de la meilleure des manières, on va être à son service de la plus noble des façons que nous connaissons. Et on va se comporter par le meilleur comportement vis-à-vis de lui, alayhi sallatou salam. Alors si lui, le prophète, qui est un homme parmi tout autre homme, même s'il est la meilleure créature de Dieu, mais c'est un être humain comme nous, nous savons tous que nous allons être tels que je l'ai cité vis-à-vis de lui s'il nous rend visite. Alors imaginez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous observe jour et nuit, qui sait très bien ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, et ce que nous faisons par nos sens et par nos actions. Allah le dit dans le Coran. La sourate Qaf. Il dit subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid.
Nous avons certes créé l'être humain et nous savons ce qui le tourmente au fond de lui-même et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Et donc les savants dans l'exégèse de ces deux versets-là dans Sourate Kaf nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait nos intentions, il les connaît, et il sait quelles seraient nos intentions avant que nous les ayons. Il connaît nos actions, et il sait très bien quelles sont les actions que nous allons faire avant même que nous les faisons. Donc il est plus proche de nous que nous sommes proches de nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. C'est pour ça que Abdullah, l'imam, et le commandeur de croyants, le cinquième calife, Omar ibn Abdel Aziz, radiallahu anhu, avait commis une fois un excès avant même d'être commandeur des croyants. Il était préfet à Médine et il avait bien sûr obéi au commandeur des croyants. Il a fouetté un homme. C'est pas par ses propres mains, mais il a ordonné cela par l'ordre du commandeur des croyants à l'époque. Et cet homme, à cause des coups, il est tombé malade et par la suite il est mort. Et Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu, ne s'est pas pardonné ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il a démissionné de ce poste et il a quitté carrément Médine parce que pour lui, il a déshonoré la ville de Médine par son acte. Il a déshonoré le fait d'être voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son acte. Cet exemple est très important. Être voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment agir? Cet homme, Omar ibn Abdelaziz, il a agi de cette manière et il s'est trouvé dans le sentiment d'avoir déshonoré la ville elle-même, qui est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir déshonoré le fait d'être voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginons-nous, le prophète est mort, le prophète est enterré à Médine, cet homme comment il a agi? Imaginons-nous par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, jour et nuit, chaque instant. Quelles sont les paroles que nous disons? Quelles sont nos intentions? Quels sont nos projets? Quelles sont nos envies? Quel est notre regard? Comment utilisons-nous notre oui quand on écoute? Quelles sont nos paroles, les dégâts de nos langues et nos paroles? Et quelles sont nos fréquentations? Beaucoup de questions à poser et chacun a des réponses, bien sûr, par rapport à son propre vécu au quotidien. Toujours Omar ibn Abdelaziz, après avoir fait cela, et après qu'il a regretté, l'un des savants de l'islam qui s'appelait à l'époque Raja ibn Haywa, qui était l'un des les premiers savants à avoir écrit le hadith, les hadiths du professeur, avoir fait un recueil, un livre sur les hadiths. Et il était le maître de Omar ibn Abdelaziz, car Omar ibn Abdelaziz était commandeur des croyants. Et avant d'être commandeur des croyants, il était savant. Ce qui nous manquait de nos jours, c'est que les chefs d'État n'ont pas de savoir et de science. Qu'est-ce qui se passe après son regret de ce qui s'est passé? Ce savant, qui était son maître, il est venu pour le consoler. Et il lui a dit de se repentir, il lui a dit que c'est un homme comme tout le monde, il a commis une erreur, il faut qu'il se repentisse. Et Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu, disait, et si je me repens de mon péché vis-à-vis de mon Seigneur, comment saurais-je que cet homme qui était mort m'aurait pardonné? Alors que j'ai son visage autour de moi à chaque fois que je regarde autour de moi. Tout ça, c'est pour nous dire que nos actions, il faut qu'on ait un sentiment par rapport à nos actions, tels qu'ils l'ont eu ces gens, ces grands hommes et certaines grandes femmes aussi, c'est le fait que le grand péché doit être considéré comme une montagne sur la tête. Quand on commet un péché, c'est comme si nous avons une montagne au-dessus de nos têtes. Elle risque de nous écraser. Il faut qu'on fuit. Et qu'on la laisse tomber sans nous écraser. Nos bonnes actions et nos bienfaits, il faut qu'on les considère comme une graine dans le désert. Alors que nous, souvent, on fait le contraire. La bonne action, on la considère comme une montagne. Et le péché, on le considère comme une graine, un grain de sable dans le désert. On fait le contraire de ce que nous devrions faire normalement. Et pour s'en sortir, bien sûr, de nos dilemmes, de nos problèmes au quotidien, il faut qu'on ait cet attachement vis-à-vis de Dieu, qu'on ait ce sentiment d'être sous la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muraqaba, Allah nous surveille, exalté soit-il loué, et il a œil sur nous. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous faisons, et chaque instant de notre vie, chaque action, qu'elle soit grande ou petite, elle est comptée. Et elle est dans un livre, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Nous vous ferons sortir le jour du jugement pour chacun un livre qui sera édité, écrit. اِقْرَأْ كِتَابَكْ. Lis ton livre. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Il te suffit aujourd'hui comme juge ta propre personne. Lis ce que tu as fait, tu seras le juge de ta propre personne. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala, parlant des actions et des surtout petites soies ou grandes, il parle dans le Saint-Coran, par la parole, il cite la parole des gens qui vont être, qu'Allah nous préserve, dans les supplices de l'enfer. Il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant d'eux, c'est eux qui parlent, وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب او مالغانو, disent pourquoi ce livre, يعني le livre de chacun, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Il n'a laissé ni petite action ni grande action. Il a tout écrit, tout a été écrit. Et c'est pour cela que dans la sourate Qaf, Allah nous montre qu'il y a trois livres, mes frères et sœurs. Trois livres. Il y a un livre de la droite, tenu par deux anges de la droite, qui se relaient. Il y a un livre de la gauche, tenu par deux anges de la gauche, qui se relaient. Celui de la droite, il écrit les bonnes actions. Celui de la gauche, écrit, l'ange de la gauche, écrit les mauvaises actions. Mais il y a un troisième livre qui est auprès d'Allah. Il n'y a que Allah qui connaît son contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? On va voir ce qu'il y a dans ce livre, Inch'Allah ta'ala. Le verset dans surat Qaf nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Nous avons certes créé l'être humain. Cette certitude, si nous l'avons vraiment nous, que nous sommes les créatures d'Allah, nous aurons la certitude qu'il est capable de savoir ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Après il a dit وَنَعْلَمُ. Avec toujours cette certitude, nous savons avec certitude ce qui le tourmente au fond de lui-même. Les pensées que nous avons au fond de nous-mêmes, les intentions que nous avons avant d'agir, Allah les connaît, subhanahu wa ta'ala, avant même la parole, avant même qu'elle sorte de notre veine jugulaire et qu'elle traverse la gorge, Allah la connaît déjà, exalté soit-il loué. Qu'elle soit une parole qui va être dite ou une parole qui va rester au fond de soi-même. Car nous parlons au fond de nous-mêmes, comme nous parlons par notre propre langue. Et donc, dans le livre de Dieu, il y a toutes les choses que nous disons, que nous faisons, tous nos regards, toutes nos actions, toutes nos intentions, parce que Allah, il sait tout, subhanahu wa ta'ala. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah, certes, connaît, nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Allah, certes, connaît le regard traître et ce qui est caché dans les poitrines. Et donc le regard, on sait très bien que ça nous arrive des fois de fixer un regard vis-à-vis de quelqu'un et on croit que c'est un regard de tendresse. Et il se peut que ce soit un regard traître. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et que Allah qui sait ce qu'il y a à l'intérieur, subhanahu wa ta'ala. Il y a le sourire et le faux sourire, n'est-ce pas? Il y a le rire et le faux rire, ou là, le fou rire. Ça nous arrive d'avoir un fou rire, on ne l'arrête pas. Ça continue. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, et il a un livre spécial pour ça. Nul ne peut savoir ce qu'il y a dans le contenu de ce livre si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Allah nous dit, il nous parle des deux anges. Il nous dit, enfin c'est quatre anges qui se relaient. Il nous dit, il y a talaqqa al-mutalaqqiyan 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. ils sont tous les deux assis, un à droite et l'autre à gauche, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent ce que nous prononçons, ce que nous faisons. Mais ils ne peuvent pas savoir nos intentions. Ils ne peuvent pas connaître ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. C'est pour cela que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occuperait à ce moment-là de noter lui-même les intentions. Des fois, il se peut que la personne agit vis-à-vis de nous dans le bien, ou il se peut que nous, on donne rendez-vous à quelqu'un pour la rencontre, d'accord ? Et on donne rendez-vous à cette personne à la mosquée. Si je lui donne le rendez-vous à la mosquée à l'heure de la prière de l'Asr, alors que je suis et je sais à l'avance que habituellement je fais la prière de l'Asr à la mosquée, donc l'intention de faire la prière de l'Asr prime. Et l'intention de rencontrer cette personne, elle vient par la suite. Par contre, si moi j'ai pas l'habitude d'aller à la mosquée et je lui donne rendez-vous à la mosquée, mon intention ce serait le rendez-vous et non pas la mosquée. Et qui c'est qui va distinguer entre les deux intentions et l'action? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ils vont écrire que la personne a été faire la prière de l'Asr en groupe. Donc ils vont écrire 27 hasana. D'accord? Par contre, Allah, s'il sait que la personne elle n'a pas été avec l'intention de faire la prière du groupe, mais elle a été pour un rendez-vous, pour l'achat d'un véhicule, pour contracter un autre contrat de mariage ou autre, ou pour un autre problème, ou quelque chose de bien, que, les anges, même s'ils ont écrit 27 hasana, la personne n'aura aucune hasana si ce n'est son intention et l'action qui a yani, été le produit de cette intention. Et donc, il y a trois livres. Un livre pour les hasanat, un livre pour les sayyat, les mauvaises actions, bonnes actions, ce que les anges connaissent. Et ce que les anges connaissent, c'est ce que les hommes connaissent. La parole et l'acte. D'accord ? L'intention, on est jugé nous-mêmes sur nos intentions. Même le démon qui est au fond de nous-mêmes, Shaitan, ne peut pas agir sur notre intention. Il ne peut pas connaître notre intention. Il peut nous insuffler des paroles, mais il ne peut pas lui-même yani, nous pousser à avoir une mauvaise intention ou à avoir yani, une intention de trahison et ainsi de suite. Donc il n'y a que yani, l'être humain lui-même qui agit ainsi. Et pour lui-même ou contre lui-même, et il sera jugé sur ses intentions. C'est pour ça que le prophète sallam dit innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, les actes ne valent que selon leurs intentions. On ne peut avoir de récompense que par rapport à nos intentions.
Voilà. Il est 20h39, inchallah une petite pause tant qu'on nous cale un petit morceau, un anachid, un chant religieux, un farid. Voilà, le Coran, comme tu le sens, c'est toi qui as la technique, c'est toi qui maîtrise. Donc, on va peut-être appeler un 03 20 73 59 00. Vous pouvez poser vos questions à partir de 21h. Le CBSP lance effectivement une campagne, le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. Donc le Secours islamique, c'est la même chose. Donc le Secours islamique lance aussi sa 21e campagne internationale de lutte contre la malnutrition, excusez-moi. Donc à l'occasion de la fête de l'Aïd, donc le Secours islamique organise une campagne internationale de lutte contre la malnutrition. C'est offrir un sacrifice, vous pouvez le faire. Hein. Cette opération annuelle permet de lutter contre la malnutrition en apportant la nourriture nécessaire à la survie des populations touchées par la famine. En majorité, ce sont des femmes et des enfants. Lancée en 86, cette campagne de lutte contre la malnutrition bénéficie d'un succès croissant tant au niveau de la quantité des dons reçus qu'au niveau des populations qui en bénéficient. Donc voilà, en 2005, ce sont près de 44 000 sacrifices qui ont été offerts à plus de 1 million de personnes dans 25 pays. Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Bangladesh, Bosnie, Cachemire, Chine, Égypte, France, Inde, Indonésie, Irak, Kenya, Kosovo, Liban, Mali, Maroc, Pakistan, Palestine, Soudan, Sri Lanka, Tchétchénie, Turquie et le Yémen. Donc vous pouvez envoyer vos dons ou aller directement sur le site du Secours islamique. Un numéro de téléphone, c'est le 01 49 17 3 fois. Envoyez vos dons, mais il vaudrait mieux aller sur le site parce que selon les pays, le prix du mouton, de l'agneau, n'a pas la même valeur, n'a pas le même prix. Hein. On l'achète en Algérie ou alors au Bangladesh, pour 50 euros, je crois qu'au Bangladesh, on peut acheter un mouton, alors que dans un pays, c'est un peu plus cher. Quoi qu'il en soit, vous pouvez agir de la sorte. Hein. 01 49 17 3 fois, donc secours islamique. Yacine, peut-être pour le CDSP.
Non, j'ai rien ajouté à ce que tu as dit.
Ok, donc je rappellerai Inch'Allah les coordonnées du CBSP.
Ça, c'était le secours islamique.
Ça, c'est le secours islamique.
Le CBSP lance aussi la même chose, une campagne de Eid al-Adha, année 2006, en solidarité avec le peuple palestinien. Et donc, le CBSP donc, nous rappelle l'approche de cette période prévue et bien sûr bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est prévu pour le 10 janvier, inchallah, ce sera un mardi. Et le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, CBSP, lance sa campagne annuelle de solidarité en faveur des familles palestiniennes démunies. Alors, vous avez à partir du jeudi 22 décembre jusqu'au mardi 10 janvier pour pouvoir bénéficier de la récompense de Dieu, subhanahu wa ta'ala, en envoyant vos dons au CBSP, ici sur Paris, c'est le 37 rue de la Chapelle, 75018 Paris. Téléphone 01 55 268 268.
Voilà. Voilà, l'Afrique, en sachant qu'il y a aussi une adresse sur l'île, mais on a dû l'avoir, c'est rue Jules Guette, je crois.
Oui, l'île, c'est 68 rue Jules Guette, et le numéro de téléphone, c'est 03 20 63 99 85.
Peut-être rappeler, peut-être avant la pause, l'Aïd al-Adha, c'est le sacrifice, effectivement, d'une bête, d'un mouton, d'un agneau. Là, je ne sais pas trop pour les femelles agnelles ou alors les brebis. Mais peut-être pour dire que cette campagne, les gens qui veulent offrir, il y en a qui veulent tuer, qui tuent, enfin, qui vont faire le sacrifice, il y en a qui ne le feront pas, ils préféreront l'envoyer. Donc,
envoyer l'argent pour que ce soit fait ailleurs.
Oui, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, parce que personnes qui disent au contraire il faut tuer, il faut égorger pour le...
Oui, il faut sacrifier soi-même, voilà. Ça c'est la meilleure manière, mais celui qui ne peut pas, il n'a pas la possibilité de le faire parce qu'il habite dans un appartement.
Exactement.
Où, alors que c'est interdit en France de le faire de cette manière. Donc il peut envoyer bien sûr en Palestine, et le mieux puisque ça coûte pas cher à l'étranger, dans des pays pauvres, donc c'est d'en faire deux fois, faire un sacrifice pour soi et offrir un mouton à sacrifier pour une famille démunie partout dans le monde, ou c'est précisément en Palestine, comme on veut, comme l'a fait le professeur Hassan. Le prophète a fait deux fois un sacrifice qu'il a fait pour lui et un pour toute la communauté musulmane parmi les démunis. Il est démuni parmi la communauté musulmane. Et donc, c'est faisable. Si on a la possibilité de le faire de cette manière, c'est la meilleure manière, Inch'Allah.
Inch'Allah, barakallahu fik. Une pause 20h44, on se retrouve dans 6-7 minutes, Inch'Allah. C'est vrai.
LFM, boîte postale 222, 59054, Roubaix, CEDEX 01.
Postale FM.
Sur les ondes de Pastel FM, donc 20h55, hein, on le rappelle, 03 213 59 00, donc vous pouvez poser vos questions dans 5 minutes ou dès maintenant, quoi qu'il en soit. Ahmed Mektar, salam alaikum wa rahmatullah. Donc on reprend, hein, c'est la sauvegarde, la protection, tu nous parlais de muraqaba, le fait d'être la vision d'Allah, hein, sur soi, d'être conscient de cela.
La surveillance de Dieu.
Voilà, donc tu nous as parlé aussi à un moment donné d'être comme si que le professeur Wassalam était notre de quel comportement on aurait pu avoir à ce moment-là, et que tu nous as parlé des trois livres, hein, c'est bien ça, avec les deux anges, celui qui note les bonnes actions et ceux plutôt vu qu'ils sont deux, ils se relaient les mauvaises actions, sachant qu'il y en a un qui est auprès d'Allah, que personne n'a connaissance. et qu'Allah est au plus près de nous et nous connaît encore mieux, mieux que nous. Donc à partir de là, à partir de cela, on doit sentir effectivement tous les jours la présence d'Allah au niveau de nos actes. Et tu parlais des actes ne valent que par leurs intentions. Donc je te laisse continuer à partir de là,
Inch'Allah. Et donc cela nous amène bien sûr à un degré très important de la foi, qui est le degré d'excellence. Le fait que le prophète ﷺ reçoit l'ange Gabriel sous une forme humaine et qu'il lui pose quatre questions. La troisième question, c'était qu'est-ce que l'excellence, ou si vous voulez la bienfaisance. Le prophète ﷺ a dit, c'est que tu aies conscience qu'Allah t'observe, sachant que tu ne peux pas le voir. Et donc le musulman au quotidien, il doit avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il connaît parfaitement ses gestes, il connaît parfaitement les traits du visage, qu'est-ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il y a au fond de lui-même. Et c'est pour cela que quand on arrive à ce degré-là, on est vraiment parmi les excellents et on est dans la vie des excellents et de l'excellence. Et le musulman, pour qu'il soit sauvegardé et protégé des dilemmes, des problèmes et des difficultés de la vie, il faut qu'il ait cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Car si je sais qu'Allah est avec moi, à chaque fois que j'en ai besoin, il ne suffit que je dise « Oh mon Seigneur » et il est à mon service, exalté soit-il et loué. Alors que si je suis loin de lui, au fond de moi-même et par mes actions, certainement, lui il est proche de moi, mais le fait d'exaucer mes vœux et mes invocations pourrait être une chose impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les hommes, il y en a ceux qui mangent le haram, s'habillent avec le haram, vivent dans le haram, ils lèvent les bras au ciel et disent « Ô Seigneur, donne-moi » et comment le Seigneur va-t-il lui donner ce qu'il veut? Impossible. C'est pour ça que à ce moment-là, le musulman doit observer une certaine pudeur vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une certaine pudeur importante, sachant que Allah l'observe et le voit. Une pudeur qui a fait en sorte que Abu Bakr as-Siddiq, quand il allait aux toilettes faire ses besoins, il faisait tout son possible pour se couvrir totalement en faisant ses besoins par pudeur de Dieu subhanahu wa ta'ala, par pudeur de prononcer le dhikr d'Allah, car il était constamment en prononciation de dhikr. Il mettait un caillou dans sa bouche, Abu Bakr, et le caillou lui rappelait qu'il ne faut pas qu'il prononce le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'il faisait ses besoins. C'est aussi cette observation du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous au quotidien qui a fait en sorte que ces gens-là ont réussi dans leur vie, que ce soit leur vie intime avec leurs époux ou épouses, ou que ce soit la vie au quotidien en côtoyant les gens. Car celui qui a réussi sa relation avec Allah, Allah lui permet de réussir sa relation avec les autres. Celui qui est aimé par Dieu, il sera aimé par les autres. Et les premiers qui vont l'aimer après Allah subhanahu wa ta'ala et par l'ordre de Dieu, ce sont les anges. Et les anges vont diffuser le qaboul, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'acceptation et l'amour autour de lui. D'où le fait que si tu vois quelqu'un qui ses actions ne sont pas des actions, on va dire, grandioses, et que ces actions-là, elles prennent de lui une certaine énergie, et que autour de lui, les gens sont satisfaits de ce qu'il fait et qu'il l'aime, les gens l'aiment, sache que c'est une personne qui a un secret entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a une liaison, une relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle observe au quotidien. Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit que dans la communauté de musulmans, parmi la communauté du prophète lui-même, le jour du jugement, il y aura des gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat, de bonnes actions. Les anges ne font qu'écrire ce qu'on fait. Ils ne se rendent pas compte de nos intentions et ça ne les concerne pas. Allah leur dit d'écrire ce qui se fait. Et donc ils vont venir avec ces gens-là parmi les musulmans, avec des montagnes, comme des prophètes, les montagnes du Tiham, blanches. Parce qu'il y a des montagnes, une série de montagnes autour de la ville de Médine, et qui s'appellent les montagnes du Tiham, de couleur blanche. Et ils vont venir avec des montagnes de Hassanat, mais Allah va la faire disparaître comme de la poussière. Pourquoi, au messager de Dieu, il dit, parce que ces montagnes de Hassanat, c'était leurs actions qu'ils ont partagées avec les gens, leurs bonnes actions qu'ils ont partagées avec les bons. Quand quelqu'un, un groupe de gens ou dans la mosquée, il donne une aumône, il donne lui aussi. On ne sait pas quelle est son intention. D'accord ? Il donne. Quand il y a la prière de Tarawih, il fait les prières de Tarawih avec les gens. Quand il y a le vendredi, il fait l'adoration du vendredi avec les gens. Quand il y a l'Eid, il fait l'Eid. Quand il y a le pèlerinage, il fait le pèlerinage. Donc, il partage avec les gens les bonnes actions, quand il est avec les gens. Mais dès qu'il rentre chez lui, il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que cette personne, elle est toute seule, elle détruit tout ce qu'elle a fait. Parce qu'elle oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Et qu'elle n'a peut-être pas du tout eu cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et c'est ce qu'elle fait. Nous, si je vous parle de choses pratiques, ça nous arrive d'avoir l'envie de regarder à la télé. D'accord ? Regarder la télé avec la famille ou tout seul. Alors imaginons que nous sommes avec notre prophète bien-aimé en train de regarder M6. D'accord ? Est-ce qu'on oserait regarder les pubs et regarder les films où il y a des... et les séries et les... Il y a un programme spécial pour certaines personnes intellectuellement faibles et mal placées dans la société et qu'il faut remplir par ces choses-là uniquement. Donc, est-ce qu'on oserait regarder ces choses-là? Bien sûr qu'on ne va pas y oser. Allez, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Admettons que ce soit notre père, notre grand-père. Admettons que il y en a que même avec leurs enfants, admettons que ce soit les enfants qui sont avec nous et en train de regarder ces choses. Est-ce qu'on ne va pas zapper? Si, on va zapper, on va regarder un reportage qui parle des animaux, qui parle des... D'accord. Ou bien on va mettre un DVD de Risala et on fait le tout beau, le tout gentil, le religieux. D'accord. Par contre, la personne, quand elle est toute seule, elle ose regarder tout. D'accord ? Et si elle se rappelle de Dieu, allez, Dieu va pardonner. Mais qui te prouve que Dieu va pardonner ? Alors que tu es en train de décider pour Dieu. Tu es en train de lui décider ce qu'il doit faire. Le fait de te pardonner. Et c'est pour ça que, le fait d'observer que Allah nous observe, c'est très très important. Et ça nous protège. Ça nous protège de quoi ? De nous-mêmes. Car ça... C'est l'exemple que j'ai cité de la télé, où il y a d'autres exemples. Hein. La télé, c'est le plus simple, il y a pire. Hein. Il y a nos paroles au quotidien. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a certaines insultes qui sortent sans qu'on se rende compte, ou en se rendant compte. Et il y a des gestes, il y a des actes. Il y a de la calomnie, il y a de l'avarice, il y a de l'orgueil. Il y a beaucoup d'autres choses, d'accord, que nous vivons au quotidien, et personne n'est épargné, sauf celui qui observe que Allah le surveille. Celui qui a cette certitude, il sera épargné, on va dire, du plus dangereux parmi ces dilemmes. Et bien sûr, si le cœur est malade, il est touché, il est souillé par ses souillures, il est touché par le péché et par la mauvaise intention, la mauvaise action, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il risque de noircir et noircir jusqu'à ce qu'il ne reconnaît plus ce qui est louable, il ne le fait plus, et il ne reconnaît plus ce qui est blâmable et il le ferait. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention et avoir un programme d'action, d'accord, qui nous permettent et de renouveler le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal nous observe au quotidien. Parmi ces actions, il y a la récitation du Coran. Si on a un programme de récitation journalier, de récitation du Coran al-Karim, on va se rappeler de Dieu au quotidien, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des paroles. Et elle nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que celui qui a le cœur vide dans le Coran al-Karim, son cœur est comme une demeure détruite, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne lui servira à rien du tout. Facilement, elle serait habitée par les démons ou par les clochards, les clodos, comme on les appelle. Et donc, il faut faire très très attention à ceci pour qu'on puisse, inshallah ta'ala, s'en sortir et devenir fort par notre foi. Et une foi qui nous interpelle au quotidien du fait qu'on doit être honnête. Car celui qui n'observe pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille, il serait malhonnête, il serait un voleur, il serait un menteur, il serait un calomniateur et un charognard parmi la communauté de l'islam. Et ça, ces problèmes-là font fuir les non-musulmans des musulmans et les font fuir de l'islam, puisque nous vivons avec des gens qui, le jour du jugement, vont bien sûr nous tirer de notre tête ou de nos oreilles face à Dieu subhanahu wa ta'ala pour se plaindre de nous du fait que nos actions les ont dissuadés de l'islam. Voilà, inshallah, pour cette partie.
Voilà, qu'on a fait que Ahmed, donc 21h07, donc effectivement, on doit finir la seconde partie. On va rappeler, inshallah, les communiqué de presse. On sait qu'on est, inchallah, le 10, ça sera l'Aïd, donc le sacrifice, donc à l'occasion de la fête de sacrifice, comme on le disait tout à l'heure, donc vous pouvez offrir un sacrifice dans des pays où les gens ne peuvent pas en profiter, comme l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Algérie, le Bangladesh, la Bosnie. On a cité beaucoup de pays comme le Cachemire, l'Égypte, la Palestine, le Mali, le Liban, le Yémen. Donc cette année, l'objectif du secours islamique est de dépasser 1 200 000 sacrifices à travers le monde. Donc, inchallah, soyez présents. Vous pouvez sacrifier ici et offrir un sacrifice à l'étranger si vous en avez les moyens, inchallah. Donc c'est le 01 49 17 3 fois, 01 49 17 3 fois. Et vous pouvez appeler directement ou envoyer vos dons 58 boulevard Ornano, c'est au 93 285 Saint-Denis Sedex, 58 boulevard Ornano, 93 285 Sedex Saint-Denis. Donc voilà pour ça. Yacine.
Ouais, je vais rajouter aussi dans ce but-là, il y a le CBSP qui lance la campagne El Adha 2006 en solidarité avec le peuple palestinien. Donc, numéro de téléphone du CBSP se situe à Lille, 03 20 63 99 85, 03 20 63 99 85. Donc, pour participer au comité à l'aide humanitaire du peuple palestinien. Donc, je vous rappelle, ce BSP pour l'Aïd al-Akhra, 03 20 63 99 85.
Une petite pause et on se retrouve dans 5 à 7 minutes. Salam alaikum. 21h24 minutes. On a eu des questions en antenne, Ahmed, avant de reprendre, Inch'Allah, sur la thématique de la sauvegarde et la protection. Donc, c'est une personne qui voudrait savoir, donc elle étudie le Coran, mais elle a un peu de mal. Donc, pour s'enlever, pour faire la prière, elle utilise, elle se demande si elle peut effectivement utiliser le Coran pendant sa prière, mais en le lisant.
Non. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam, rasulillah. Elle peut l'utiliser dans les prières surrogatoires. Quant aux prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, elle récite ce qu'elle sait. Si elle connaît que surat al-Fatiha et pas d'autres surat, elle ne fait la prière qu'avec le Fatiha. Et puis par la suite, elle apprend à fur et à mesure et elle utilise, si elle apprend la dernière surat dans le Coran édité, la surat 114, surat Rabbin Nas, elle peut l'utiliser dans toutes les prières en attendant qu'elle apprend une autre surat et une autre et une autre.
D'accord.
Donc, quant aux prières obligatoires, elle ne peut pas utiliser le Coran édité, le Mus'haf. Par contre, dans les prières surrogatoires, elle a le droit de le faire. Elle peut le tenir avec ses mains, comme elle peut le poser sur un pose Coran, et quand elle fait recours, elle se joute, elle le tient soigneusement, elle le pose soigneusement, Inch'Allah.
C'est comme pour enfin pour Tarawih.
Comme pour Tarawih, Aïcha radhiallahu anha, pendant Tarawih, elle avait quelqu'un qui était à son service, un servant, et c'est lui qui guidait la prière. Elle était derrière lui avec d'autres femmes, et il n'avait pas appris le Coran par cœur, et il dirigeait avec le Mus'haf. Il avait le Coran entre ses mains.
Une autre question. Personne qui dit justement, on reste dans la prière, après la prière, elle fait des du'as, des invocations, elle a les deux mains levées. Qu'est-ce qu'elle fait après, une fois qu'elle a levé ses mains, qu'elle a invoqué Allah? Est-ce qu'elle embrasse ses mains par son visage? Vous savez, les gens au jamar, comme on voit, quand il y a des du'as qui sont faites, quand il y a des invocations,
il y a tout un
rituel. Alors, il y en a qui lèvent leurs mains, il y en a qui ne la lèvent pas, il y en a.
Oui.
Que faire par rapport à.
Donc, il y a deux, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui disent que le fait de lever les mains, c'est une bid'a, c'est une innovation, le prophète n'a jamais levé les mains. Il se base bien sûr sur certaines paroles des savants qu'ils ont mal compris. Et ils s'interdisent de lever les mains et ils l'interdisent à autrui, alors que c'est faux ce qu'ils sont en train de faire. Au contraire, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lever les mains et les bras vers le ciel pendant les invocations. D'autres personnes, on trouve, elles font cela tout le temps. À chaque fois qu'elles invoquent, elles lèvent les mains en groupe. Et ils font l'invocation en groupe, et ils disent, ils lèvent les bras et les mains en groupe de cette manière, alors que ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce qu'il faut faire, inshallah ta'ala, c'est que chaque individu, après la prière, c'est le moment de la prière, c'est l'invocation. D'accord? Et après la prière, c'est l'invocation. Et donc après la prière, chaque individu tout seul, s'il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lever les bras au ciel, il peut lever les bras au ciel, tel que les savants l'ont cité dans plusieurs hadiths, dans les sunnans de Abi Daoud, dans le Sahih al-Bukhari muslim, chez l'imam Tirmidhi, des hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les bras et les mains au ciel. Les gestes qui ont été décrits par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, et qui disait que la méditation invite à lever les mains, et quand on médite sur un verset ou une invocation, on lève les mains en faisant en sorte que le dos des mains soit vers le ciel et les paumes des mains soient vers le visage ou vers la poitrine. Mmh. Ça, c'est la méditation. Au moment où on doit invoquer, à ce moment-là, on retourne les mains ou les paumes des mains soient vers le ciel et en direction du visage. On peut les regrouper comme on peut les séparer. On peut les lever très haut. Ça a été rapporté que le prophète s'est levé ses mains très haut jusqu'à ce qu'on voyait la blancheur en dessous de ses épaules. C'est des hadiths authentiques. Comme on peut les mettre pliés, les bras pliés, vers le ciel ou vers le visage. C'est les meilleures manières de faire l'invocation. Il y a d'autres manières citées dans le Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'un des compagnons faire des invocations et lever le doigt de Tashahhud vers le ciel, et le prophète alayhi wa sallam ne lui a pas dit que c'est interdit. Il a agréé ce qu'il a fait, c'est cité dans le Sahih Muslim. Aussi dans le Sahih al-Bukhari Muslim, un compagnon qui a rendu service au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui ramenant de l'eau pour faire les ablutions, le prophète a levé les bras au ciel, c'est cité dans le hadith rapporté par ce compagnon, et il a dit, oh Allah, sauve-le de l'enfer et fais-le rentrer au paradis. Et donc on peut invoquer pour quelqu'un, même s'il est à côté de nous, en levant les bras au ciel. Après le fait de lever les bras au ciel et de finir l'invocation, que faire? Est-ce qu'on va embrasser les mains? Est-ce qu'on va essuyer le visage avec les mains ou la poitrine? Embrasser les mains, non. Ça ne fait pas partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Passer les mains sur le visage, ça a été l'une des actions de certains pieux parmi les savants de l'islam, mais ils passaient leurs mains sur le visage pour essuyer les larmes. Alors, à ce moment-là, si on le fait, les gens les ont vus faire et ils croyaient que c'était, on le faisait toujours. Non, essuyer les larmes. Si on le fait pour essuyer les larmes, d'accord. Passer les mains sur la poitrine, ça n'a aucun fondement. Donc il ne faut pas le faire. On ferme les mains si on n'a pas des larmes directement, on les baisse, ou bien si on a des larmes, on essuie nos larmes, inshallah ta'ala, après.
Alors, Une troisième question. Donc c'est un malentendu entre deux amis. C'est une femme qui a fait une aumône et son ami qui était avec elle n'a pas donné. Celle qui a fait l'aumône, enfin, tu me corriges si je suis pas, si c'est pas bon. Celle qui a fait l'aumône, en somme, lui a reproché le fait qu'elle n'ait pas donné à ce moment-là.
Elle n'a pas donné à ce moment-là. Oui. En fait, quand on est invité à donner et on a la possibilité de donner, il faut donner. Le prophète alayhi salam nous a dit, si quelqu'un vous tend la main, c'est-à-dire il vous demande une charité, donnez-la lui, même s'il est sur une monture. Imaginez quelqu'un qui est sur une monture, nous on marche à pied, il nous tend la main. D'accord ? Si on a la possibilité de donner, donnez. Mais il faut savoir quoi donner, comment donner et pour qui donner. D'accord ? Si la personne, elle a choisi par sa propre volonté de faire une aumône autrement que ce qu'elle a fait sa copine ou son copain ou son ami, elle est dans son droit. Rien ne l'oblige à donner pour ressembler à son copain ou à sa copine ou à son ami parce qu'il veut qu'elle donne. Si la personne elle-même, elle ne donne pas devant tout le monde et elle veut donner en cachette, c'est encore la meilleure manière de donner et de faire une aumône. Si la personne, elle lui a demandé de faire un don pour tel organisme, alors qu'elle avait l'intention de le faire pour un autre organisme, elle est dans son droit. Et d'ailleurs, l'aumône, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas un acte faisant partie de la zakat obligatoire. Allahu a'lam.
Pour continuer et abonder dans ce sens, devant les jamas, surtout les jours, le vendredi, il y a beaucoup de mendiants, énormément de mendiants qui viennent un peu partout, de tout pays, les pays de l'Est. Donc, qu'en est-il par rapport à cela? Parce que c'est vrai que les personnes sont gênées, il y en a qui donnent avec leur cœur, et pour d'autres personnes, il ne faut pas leur donner, parce que c'est un métier, quoi.
C'est ton cœur qui gère cela. Si ton cœur il te permet de donner, donne. Il n'y a aucun problème. Si ton cœur ne te permet pas, parce que tu sais que, comme tu dis, c'est des personnes qui l'ont pris comme métier et qu'ils ne vont pas s'en servir vraiment parce qu'ils sont dans le besoin, à ce moment-là, tu suis ton cœur, Inch'Allah.
Dernière question qu'on a pu avoir en antenne. On rappelle à 0329-00, donc vous pouvez appeler aussi en direct, on vous y invite. Interactivité, il n'y a rien de tel. Donc, une sœur qui était enceinte, elle a un bébé, mais il est mort à 3 mois, qui était en son ventre. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit l'enterrer? La vie commence à partir de
quand? Donc voilà, ma question.
Je vais essayer de résumer, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important à savoir. Il faut faire la différence entre le fait d'avoir la vie, d'accord, et le fait d'être un être humain. D'accord ? Un être humain, il est composé de 3 paramètres. Le corps, l'esprit et le cœur. D'accord ? S'il y a ces 3 paramètres, à partir du moment où il y a ces 3 paramètres, c'est considéré comme un être humain. D'accord ? Et chez certains savants, c'est la vie humaine. À partir de ce moment-là, on n'a par exemple pas le droit de l'avorter, chez certains savants. D'autres, ils nous disent, la vie, elle commence dès qu'on a soufflé l'âme, même si le corps n'est pas complet. D'accord ? D'autres, ils nous disent, non, la vie, elle commence dès la fécondation, parce qu'il y a la vie. C'est ça la vie pour eux. Et il ne faut pas le toucher, il faut le laisser vivre. Maintenant, par rapport à ça, ces avis-là, on voit si l'enfant décède durant la grossesse, à partir de quel âge de grossesse on doit le laver, le mettre dans le linceul, faire la prière du deuil, l'enterrer et lui donner un prénom. Alors, chez l'école Hanbalite, c'est la plus facile, la plus simple dans ce domaine-là. L'école Hanbalite, elle prend cela à partir de l'âge de 42 jours. D'accord ? Parce qu'il y a un hadith du Prophète dans le Sahih de Muslim qui dit que Allah envoie un ange qui souffle l'âme dans le fœtus à partir de l'âge de 42 jours. Certes, il y a un autre hadith Est-ce que je te vois regarder comme ça? Il y a un autre hadith dans Sahih Bukhari et Muslim qui dit 40 plus 40 plus 40. Ça fait 120 jours. Mmh. On y vient, Inch'Allah. Mmh. Alors, les savants, ils nous disent, les savants qui suivent l'école Hanbalite et d'autres savants qui ne sont pas Hanbalites mais qui ont choisi cet avis-là, ils nous disent que, puisque les deux hadiths sont authentiques, il faut les utiliser tous les deux. C'est qu'il y a une période dans laquelle les fœtus varient. Il y en a qui reçoivent l'âme à partir de dès le 42e jour, d'autres au 50e jour, d'autres, d'accord. Mmh. Et ça ça s'étend jusqu'à 120 jours. C'est-à-dire qu'à partir de 120 jours, tout le monde a l'âme. Avant 120 jours, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. D'accord. Mmh. Alors, qui est-ce qui va primer et qui est-ce qui va nous donner et nous éclairer là-dessus? C'est la médecine. Et la médecine, réellement, à partir d'aujourd'hui, de nos jours, réellement, elle nous dit que le corps humain, il se forme à partir de la quarantaine. La quarantaine, c'est-à-dire à partir de 41 jusqu'à 49 jours. Hein? Mmh. Et moi, de mes propres yeux, j'ai vu des fœtus avant même 3 mois. On a été à l'hôpital pour les laver et il y avait tout, les yeux, même s'ils sont fermés, mais la tête elle était là complète, le corps complet, les orteils, les doigts et tout. D'accord. Donc cette sœur, Inch'Allah ta'ala, même si moi j'ai fait toute cette introduction, mais elle était importante avant de répondre, cette sœur, selon l'avis de l'école Hanbalite, elle demande à son mari de laver le bébé. Ou quelqu'un d'autre, il ramène quelqu'un, pompe funèbre ou autre, laver, le mettre dans le linceul, lui donner un prénom, et puis l'enterrer.
Marc, voilà. Je n'ai pas de difficulté par rapport justement aux opérations à récupérer.
Non. Ce que je sais, c'est qu'à Jeanne de Flandre, il y a un service spécial pour ça. Il y a une dame très très gentille de confession catholique qui s'occupe de l'enterrement des bébés qui sont nés morts ou bien qui sont morts avant leur naissance de parents de confession musulmane, sans aucun problème.
Barakallahu fik. On va revenir sur la thématique. Il y a une question,
juste une petite question. Enfin, je ne sais pas si vous m'entendez là.
On n'a pas de retour.
Donc là, comme ça, vous m'entendez peut-être un peu plus fort. Là, vous m'entendez là?
Plus fort.
Comme ça, vous m'entendez pas?
Oui.
C'est bon. Voilà, comme ça, c'est impeccable. Excusez-moi. Donc, une question. Donc, c'est deux questions en antenne. Donc, pendant que vous interveniez, la première, c'est concernant la question sur la prière. Est-ce qu'il y a une dérogation pour les malades, par exemple? Le fait, au niveau des invocations, il y a une personne qui a écouté ta réponse et dit: ouais, mais moi, je suis malade. Est-ce que je peux dispenser de faire ce que vous avez dit?
Pour les invocations.
Pour les invocations, tout ça.
Mais on a dit que la prière elle-même, j'espère que la personne m'a bien compris, la prière elle-même, c'est une invocation. Car dans les prosternations, on fait des invocations. La récitation de la sourate al-Fatiha, c'est une invocation puisqu'on dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, celui de ceux que tu as comblés par tes biens. » Et donc, la prière elle-même nous suffit comme invocation. Après, si on a besoin encore plus d'invoquer, il y a la sunna du prophète sallam qui nous le permet, et le prophète sallam a invoqué Allah azza wa jalla. Or, les prières, de la manière que nous avons citée, ce n'est pas obligatoire. Si le frère est malade, il ne peut pas faire cela, il peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans lever les bras. Parce qu'on a dit qu'il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas lever, il y a ceux qui lèvent les bras et qui obligent tout le monde à lever les mains et les bras. Nous on dit il faut être au milieu, et au milieu c'est que quand je sens que spirituellement j'ai besoin de lever les bras, je les lève, et ça rentre dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Si je sens que je n'ai pas besoin, je lève juste un doigt, celui que j'utilise pour le tashahhud, je le lève. Si je suis malade ou je suis fatigué et tout ça, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je peux même l'invoquer sans prononcer l'invocation. Au fond de moi-même, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans problème. Inch'Allah.
Barakallahu fik. Il y a d'autres questions. mais je vois que Farid est occupé apparemment, donc peut-être entre deux, tout à l'heure on parlait du degré de l'excellence, justement, c'est sentir que quand Allah nous observe, et ce sera souvent la personne qui aura le meilleur comportement, sachant quand Allah est avec elle.
Oui, en fait, ce degré-là de la foi nous permet, bien sûr, de vivre notre foi réellement au quotidien. Et bien sûr de témoigner dans notre conviction de foi. Parce que les gens voient de nous ce qui est propre et non pas ce qui est sale. Et les gens, bien sûr, les gens, on peut les influencer, on peut les toucher par ce qui est bon et non pas par ce qui est mauvais. Et il y a des choses bonnes au sujet desquelles tout être humain est d'accord. Il y a un consensus total entre les êtres humains. L'honnêteté, la justice, la véracité, des choses qui sont importantes. Et ces choses-là, si le musulman n'observe pas le fait qu'Allah Azza wa Jal le surveille au quotidien, il risque de tomber dans ces problèmes de vol ou de traîtrise et trahison et autres derniers mensonges et ainsi de suite. Je donne un exemple, il y a des exemples flagrants. Un exemple, quelqu'un qui achète une batterie, parce que ça s'est passé, on m'a posé la question à la mosquée. Quelqu'un, il achète une batterie de voiture, il la ramène, il la met dans sa voiture et sa voiture a déchargé la batterie. Le jour même, l'instant même où il l'a mis, elle a été déchargée cette batterie.